entier a fermé les yeux, mais nous, nous avons tout vu. Ce sont les mots d'Asma Ibrahim, une survivante d'El Fasher. Derrière cette phrase, il y a des fosses communes, des villages incendiés, des viols systématiques, des exécutions sommaires. Des milliers de victimes, des milliers de civils massacrés, pendant que les forces de soutien rapide, les FSR, filmaient parfois leurs propres crimes, comme de simples trophées. Depuis cette chute, la guerre s'est déplacée. Aujourd'hui, c'est le Kordofan qui devient le nouveau champ de bataille. Les paramilitaires ont annoncé la prise de Baba Noussa, dernier bastion de l'armée régulière dans cette région hautement stratégique. Si cela se confirme, ce sera un tournant majeur dans le rapport de force. Et nous allons en parler aujourd'hui dans l'Expresso de la politique avec Rachel. Salut, comment ça va Rachel ?
Salut, ça va et toi ?
Ça va, merci. Et quand on parle du Soudan, et actuellement quand je regardais les infos, etc., l'actu, on voit beaucoup que le Soudan, et surtout ce conflit, on le traite comme une simple guerre civile. Est-ce que c'est vrai ?
Alors non, effectivement, on l'entend souvent dans les médias, mais ce conflit n'est absolument pas une simple guerre civile. C'est devenu un terrain où s'entrecroisent les ambitions de puissances régionales et internationales. Certaines fournissent des drones, des armes sophistiquées, parfois du renseignement. D'autres cherchent à sécuriser leur accès à l'or soudanais ou à s'implanter sur la mer Rouge. Le Soudan attire des États puissants qui viennent y protéger leurs intérêts plus que ses habitants.
Et dans ce contexte brûlant, un geste inattendu a eu lieu. Le 24 novembre dernier, les FSR, les forces de soutien rapide, ont annoncé une trêve unilatérale de 3 mois. Une annonce qui intervient précisément après les massacres, au moment où des images satellites montrent qu'ils creusent des fosses communes pour dissimuler ce qui s'est déroulé. Beaucoup y voient une tentative de se blanchir, plus qu'une réelle volonté de paix. Et c'est toi, Rachel, qui va nous éclairer sur cette question de la trêve, qui semble véritablement être un simulacre.
Cette trêve initiée par les Américains peut paraître positive et amorcer un apaisement du conflit, mais elle ne constitue en aucun cas une véritable porte de sortie. Derrière cette annonce par les forces de soutien rapide se cache une volonté de se blanchir, notamment par rapport aux exactions commises à El Fasher et qui continuent de se produire dans le sud du Soudan, à Kordofan. L'ONU a d'abord appelé aujourd'hui à ne pas rester les bras croisés et ne pas laisser le Kordofan devenir un deuxième El Fasher. Cette annonce de trêve est donc un pas, mais elle ne constitue qu'une annonce. Elle ne correspond à aucune réalité sur le terrain, aucun véritable projet, aucune législation, aucun plan. Puisque dans tous les cas, les deux parties ne souhaitent pas la paix, mais une victoire militaire, ce qui paralyse la situation car aucun des deux ne cédera. Encore plus, ces puissances alliées pour établir une trêve sont les mêmes qui entretiennent le conflit.
Et après avoir vu l'horreur vécue par les civils au Soudan, il faut aussi comprendre pourquoi ce conflit ne s'arrête pas là. Le Soudan est aujourd'hui ce que l'on pourrait qualifier comme un terrain fertile pour les ingérences étrangères où chaque puissance défend ses propres intérêts économiques, politiques et stratégiques. Commençons par la Russie. Officiellement, Moscou affirme soutenir la souveraineté du Soudan, mais officieusement, le groupe Wagner fournit des armes au FSR et exploite des mines d'or. Cette présence permet aussi à la Russie de pouvoir contrer l'influence européenne et selon certains experts, d'obtenir une base navale sur la mer Rouge, ce qui constituerait son premier point d'ancrage militaire en Afrique, et ce qui lui donnerait la possibilité d'avoir un accès sur ses eaux commerciales hautement stratégiques. Autre offre, le Kremlin bénéficierait également d'un accès privilégié à ses concessions minières du Soudan, qui est, il faut le rappeler, le troisième producteur d'or d'Afrique. Depuis Port-Souan, Moscou serait bien placé pour surveiller le trafic maritime à destination et en provenance du canal de Suez, qui est ce raccourci entre à la fois l'Europe et l'Asie, qui transporte environ 12% du commerce mondial. En outre, une telle base conférerait à la Russie ce prestige et ce poids international accru, notamment en Afrique, alors même que Moscou a connu quelques revers sur le continent. Et pour cela, il faut se rappeler du Sahel. À l'autre bout, l'armée régulière reçoit le soutien de l'Iran et de la Turquie, cette dernière fournissant des armements sophistiqués. Sur le plan régional, l'Éthiopie soutient les FSR, tandis que l'Égypte soutient l'armée régulière, notamment pour des enjeux liés à l'eau du Nil.
Les Émirats arabes unis ont également un rôle clé, car ils soutiennent massivement les forces de soutien rapide. Le lien est fort, puisque des mécènes du FSR ont participé aux opérations militaires au Yémen en 2018, bien qu'Abu Dhabi dément officiellement ses soutiens. Mais les Émirats sont intéressés surtout par Émetty pour ses ressources. On peut penser aux terres agricoles, à la gomme arabique, mais surtout à son or, qui atterrit ensuite à Dubaï. En effet, Émetty est à la tête d'un empire d'or qu'il pille de manière totalement illégale au Soudan. Ainsi, des échanges d'armes, de drones et des ressources comme l'or ont lieu entre ces deux pays. Finalement, loin d'apaiser le conflit, le Soudan est aujourd'hui un champ de bataille géopolitique puisque chaque puissance a ses propres intérêts et aucun camp n'est vraiment innocent.
Alors pourquoi le monde n'agit-il pas ? Et est-ce que cela n'est pas une question qu'il faut se poser selon toi, Rachel ?
Déjà, toutes ces puissances ont des liens économiques ou stratégiques qui les empêchent d'intervenir. Par exemple, la France entretient des relations importantes avec les Émirats pour la vente d'armes et rend donc l'action compliquée. Et puis, il faut se rendre aussi compte de la réalité du terrain. La géographie complique toute action. Les accès principaux au Soudan passent par l'Égypte ou le Tchad sur des routes longues et dangereuses, traversant des zones contrôlées par des milices locales indépendantes, ce qui rend, par exemple, l'aide humanitaire difficile d'accès.
Et il faut surtout souligner que les institutions internationales peinent à agir dans ce conflit. L'ONU et la Cour pénale internationale condamnent, mais aucune action concrète n'est menée sur le terrain. La crise nous paraît toujours plus lointaine et toujours plus complexe, car il n'y a ni un camp clairement gentil, ni un camp clairement méchant, ce qui rend la mobilisation médiatique et politique extrêmement limitée, surtout en Occident. Mais ce désintérêt, il a un coût, Rachel.
Ces drames ont des répercussions bien au-delà du Soudan. L'instabilité pousse des milliers de familles à fuir leur foyer et à migrer vers les pays voisins comme le Tchad ou l'Égypte, et au-delà, vers l'Europe. Ces vagues migratoires vont continuer, et si la crise perdure, elle pourrait représenter un défi majeur pour l'ensemble de la communauté internationale. En d'autres termes, ce conflit considéré comme lointain finira par nous toucher directement.
Et comme le prévient une survivante d'El Fasher, c'est du théâtre en disant cela, ils veulent faire comme si rien ne s'était déroulé, rien ne s'était passé, et ils peuvent continuer à jouir de leur impunité, car personne ne les a arrêtés. Les conséquences de notre action, de notre inaction plutôt, sont lourdes. Nous nous retrouvons face à un théâtre d'ingérence, un espace où se croisent la Russie, les Émirats, l'Iran, la Turquie, l'Égypte ou l'Éthiopie, où chacun a ses propres intérêts, où chacun a ses plus protégés. Comprendre les différentes ingérences étrangères et l'inaction internationale qui en découle est donc essentiel pour aussi comprendre pourquoi ce conflit nous concerne tous.
Comprendre le Soudan, c'est comprendre que ce conflit a des répercussions humanitaires extrêmement importantes au niveau de la géopolitique. Il ne s'agit pas, comme on peut le voir, d'un problème loin de chez nous. La responsabilité internationale commence par la connaissance et la mobilisation face à cette stratégie sans précédent.
Le silence assourdissant des puissances impliquées ne doit pas nous laisser plonger directement dans une forme d'apathie collective. Parler du Soudan, c'est refuser justement de tomber dans l'oubli. Et c'est aussi et surtout refuser l'impunité. Et c'est rappeler que ce qui s'y joue aujourd'hui au Soudan façonnera le monde de demain. C'était l'Expresso de la politique, votre émission de politique internationale et de géopolitique. Et ce soir, j'étais en compagnie de Rachel.
Merci Alice.
Merci à toi Rachel. Salut.